Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Le numéro 836, les numéros jusqu'à 37 et 38, 838, posent la question de qui appartient à l'Église catholique. Est-ce que c'est important de savoir si on appartient à l'Église catholique ou pas?
Oui, c'est une grande joie et je pense que il ne faut jamais négliger cette grande joie dont Saint Paul VI, qui est quand même le signataire de tous les textes du Concile Vatican II, exultait en disant « Je suis de l'Église catholique », c'est une très très grande joie.
Et alors comment on sait, enfin qui est appelé à rentrer dans cette Église catholique?
Alors tout homme de bonne volonté est appelé à entrer dans l'Église catholique. Nul ne doit être contraint de rentrer dans l'Église catholique. Et c'est clair que dans les familles, on veut toujours donner le meilleur à ses enfants. Et donc c'est normal que les parents donnent la meilleure école, la meilleure, les meilleures nourritures, les meilleurs habits qu'ils puissent pouvoir leur obtenir, et y compris le fait d'appartenir à ce qu'il y a de meilleur. Or, l'unique véritable Église subsiste dans l'Église catholique, dit le Concile Vatican II, et donc c'est une joie pour des parents de donner cette appartenance à leurs enfants.
Et tous les hommes sont appelés, mais pour y entrer, il faut quand même recevoir une grâce de Dieu, non? Parce que puisqu'il faut la foi.
Oui, la foi est une grâce, effectivement, et elle oriente déjà le cœur. La foi, c'est un don de la grâce, donc, et la grâce est invisible. Mais l'appartenance exige un pas de plus, qui est l'appartenance au corps visible du Christ. Donc une incorporation à l'Église nécessite d'être, et par la foi et par les membres, attaché à cette tête qu'est le Christ, qui nous donne les ligatures et les ligaments les uns pour être unis les uns aux autres.
Alors le numéro 837 nous aide justement à voir, donc on peut être appelé à rentrer, à avoir cette foi, enfin on est tous appelés à avoir la foi et à rentrer dans l'Église catholique, mais le numéro 837 propose une très belle définition complète de ce qu'est l'incorporation pleine et entière à l'Église. Alors, est-ce que tu pourrais détailler les conditions?
Oui, c'est le Lumen Gentium, donc numéro 14, et qui déclare « sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église, ceux qui ayant l'esprit du Christ, donc c'est bien l'aspect invisible et visible qui sont dits en même temps, acceptant intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle, et qui en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis dans l'ensemble visible de l'Église, avec le Christ qui la dirige, par le souverain pontife et les évêques. L'incorporation à l'Église, cependant, n'assure pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, mais non de cœur. Donc il faut toujours l'aspect visible et l'aspect invisible. Et si on lâche un des côtés, ben, on risque gros, je dirais. Quand, au moment de la Réformation, certains ont dit « mais il suffit d'être de cœur, d'avoir la foi, et laissons tomber toutes les institutions », ils se sont aventurés dans ce que le Concile de Trente dira une présomption. Il faut être et de corps et de cœur pour être dans une plus grande force pour recevoir ce salut.
Mais par exemple, pour tous ceux qui vont à la messe tous les dimanches, mais qui vivent ça un peu comme une tradition, quelque chose, une obligation que leurs parents leur ont proposé, est-ce qu'ils sont de cœur avec l'Église, si ils y vont que un peu dans l'obligation et en imposant à leur corps d'être présent, mais sans forcément prier ou être en relation avec Dieu dans la messe.
Alors c'est pour cela qu'on fait toujours au début de la messe une cérémonie pénitentielle qui aide déjà à prendre conscience que l'on peut vite dévier et être pécheur, c'est-à-dire ne plus avoir le cœur à cœur nécessaire à la communion avec Dieu et avec Jésus et son Église. Et deuxièmement, il y a la liturgie de la parole qui précède la liturgie eucharistique, dans laquelle la parole de Dieu est proclamée avec une homélie à la suite qui vient donner une exhortation aux fidèles pour éclairer leur foi, la réveiller si besoin était, et leur donner un élan pour poursuivre et s'attacher d'une manière, infaillible à la bonté de Dieu qui, elle, ne déçoit pas, parce que même lorsque l'homme manque de foi, lui, Dieu reste fidèle, comme dit l'Épître à Tite.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire, si un chrétien semble un peu, pas terne, mais pas dans un grand enthousiasme intérieur, comme s'il n'y avait pas eu une vraie rencontre personnelle avec le Christ, mais s'il est de bonne volonté et qu'il est là quand même chaque dimanche à écouter la parole, à essayer de l'intégrer dans son cœur, on peut estimer qu'il est de cœur à cœur, enfin en cœur avec l'Église et de l'Église.
On peut toujours être dans l'espérance du salut pour le plus grand nombre, et en particulier ceux pour lesquels on prie, ceux avec lesquels, dit saint Thomas d'Aquin, au niveau de l'espérance, on est un lien réel. C'est-à-dire si nous prions, et c'est ce que fait le pasteur de chaque célébration eucharistique, il prie pour tous les fidèles qui sont là, il entretient ce lien avec ceux qui sont là, même s'il n'a pas un lien explicitement personnel, il les prend dans sa prière et il les amène en quelque sorte au Christ qui est la tête, et il peut espérer pour eux le salut, puisque l'espérance passe par des liens concrets, toujours. Et c'est pour cela que ces assemblées ne sont jamais facultatives. Il faut souvent rappeler, dans des moyens de communication modernes, que les émissions par télévision, par radio, par Internet, sont des émissions qui ont de la valeur au niveau, je dirais, de la puissance auditive, et la foi se transmet par l'audition, mais pour atteindre la réalité de la présence, il faut la présence réelle. Notre présence réelle à l'Assemblée, et le mot Église veut dire convocation de Dieu, donc il faut y être présent. Et c'est pour cela que la messe dominicale n'est jamais facultative.
Pourquoi, au début de ce numéro 837, alors que dans une autre émission on a dit que l'Église n'était pas une ONG, pourquoi là tout d'un coup on revient au mot société qu'est l'Église ? Sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église ceux qui, ayant l'esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation, etc.
Alors, l'Église est toujours dans la continuité dans les textes, et elle s'est souvent définie comme une société parfaite par rapport à des États qui voulaient la ramener à quelque chose de subalterne, par exemple une ONG, comme il était dit précédemment. Non, l'Église est une société parfaite, c'est-à-dire elle contient en elle un pouvoir de gouvernement, un pouvoir législatif et un pouvoir, même judiciaire. Et c'est ça qui fait une société parfaite, c'est quand il y a ces trois dimensions, exécutif, législatif et judiciaire. Et cela fait une société parfaite. Ça ne veut pas dire que les membres, malheureusement, en deviennent parfaits. Et c'est ce que constate sans cesse notre société ecclésiale, c'est qu'il y a des membres qui sont pécheurs et qu'il faut accompagner pour les aider à sortir de leurs péchés et à croître vers la sainteté. Donc le mot société rappelle la dimension visible de l'Église. Ça n'est pas du tout quelque chose qu'il faudrait éliminer, parce que nous faisons partie de la société des nations. Nous sommes représentés aux Nations Unies comme une société à part entière, qui avons la possibilité de nous exprimer à notre tour. Quand vient la possibilité de consulter l'Assemblée, nous pouvons dire notre opinion à tous les représentants des nations, ce qui est important, d'être égalisé au rang d'une société qui a cette triple capacité d'un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire.
Il y a beaucoup de gens qui se disent, qui sont nommés chrétiens, on voit ça au numéro 838, mais qui professent pas intégralement les mêmes choses que les catholiques. Soit qu'ils ne reconnaissent pas le pape, soit qu'ils ne reconnaissent pas telle ou telle institution, tel ou tel sacrement. Pourtant, le numéro 838 dit que l'Église se s'est unie avec ces personnes pour de multiples raisons. Quel est l'intérêt de savoir que l'Église se s'est unie avec ces gens-là ?
Eh bien, toujours à cause de cette dimension de potentialité qu'on avait repérée dans le mot catholique, nous sommes un tout intégral par tous les catholiques qui formons déjà cette Église catholique, mais nous cherchons à être un tout, je dirais, plus vaste, et nous sommes donc dans une relation de potentialité avec tous les autres, et ceux qui nous sont les plus proches, évidemment, ce sont ceux qui ont déjà reçu le baptême, qui ont déjà reçu la foi, qui ont déjà reçu l'Évangile intégralement, la parole de Dieu intégrale, et Paul VI, dans Ecclesiam Suam, qui était son encyclique de début de pontificat, au cours du Concile Vatican II, donc, a rappelé les cercles qui sont autour de l'Église catholique. Et vous avez le tout premier cercle, ce sont les orthodoxes, puis les réformés de la réformation protestante, puis les juifs, puis les monothéismes, hein, tous ceux qui appartiennent à un monothéisme, en particulier les musulmans, et puis tous les hommes de bonne volonté, qui ont la loi naturelle qu'ils suivent, et puis au-delà, bien, c'est plus difficile, puisque ce sont des gens qui sont même éloignés de la loi naturelle, et donc pour lesquels on n'a plus qu'à prier une action surnaturelle de conversion.
Bon, on reviendra, si tu veux bien, sur ce sujet la prochaine émission.
À bientôt,
Edouard.
Au revoir.